Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça commence toujours pareil.
Oui, par le nez.
Merci.
Salut, c'est Thomas Rozek. Le 10 février 2020, disparaissait Claire Bretécher.
Mes instruments de travail favoris sont la lame de rasoir et le sèche-cheveux.
Oui, on dit Bretécher, je l'ai appris à cette occasion-là, moi j'avais toujours dit Bretécher. Mais bon, passons. Claire Bretécher, donc icône de la bande dessinée française, l'une des rares femmes dans ce secteur à avoir bénéficié de la reconnaissance qu'on réserve habituellement aux hommes. Car la BD, si elle est désormais souvent fabriquée, imaginée, dessinée ou écrite par de nombreuses femmes, elle reste incarnée la plupart du temps par des messieurs. Certes, les choses évoluent, des figures émergent, comme Pénélope Bagieu ou Marion Montaigne, mais ça ne va pas très vite. Pourtant, les créatrices de bande dessinée avaient devancé, pour le coup, le reste des arts en montant dès 2015, 2 ans avant la déferlante MeToo, un collectif dénonçant le sexisme ambiant dans une profession par ailleurs de plus en plus rongée par une précarité qui touche tout particulièrement les autrices. Alors on en est où, 5 ans plus tard? C'est la question qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée pour en parler, c'est Christelle Pécou, autrice de bande dessinée, membre active du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme et vice-présidente du SNAC BD, le syndicat des auteurs et autrices de bande dessinée. J'ai commencé par lui demander de me re-raconter l'histoire de la création de ce collectif en 2015.
Alors ça s'est créé parce qu'il y a eu une exaspération sur des expositions qui pouvaient être qualifiées de la bande dessinée des femmes, féminine entre guillemets, plein de clichés que ça pouvait comporter. Donc il y avait une exposition qui était prévue à Bruxelles. Et donc là, il y a une espèce de mouvement qui s'est créé entre différentes autrices de bande dessinée. Et après, ça s'est emballé un petit peu vite. Et puis en septembre 2015, on a créé le collectif.
Avec quel objectif concret en tête à ce moment-là?
Alors déjà, la chose qui peut paraître surprenante, c'est qu'il fallait qu'on fasse connaissance entre nous.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'était un milieu qui est toujours très masculinisé. Et en fait, on ne se connaissait pas. On connaissait 2-3 copines, mais en fait, on ne savait pas qu'on était très nombreuses, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et finalement, c'était l'occasion de se découvrir, d'échanger entre nous. Et en échangeant, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui revenaient régulièrement. Et ça nous a permis, en fait, de faire ce collectif pour créer une dynamique entre nous et un réseau d'entraide.
Parmi les choses qui revenaient, il y avait quoi, par exemple?
Bah, des comportements déplacés, des agressions qu'on pouvait qualifier d'agressions sexuelles, mais aussi verbales, évidemment. Des comportements de domination aussi de la part de certains auteurs ou certains éditeurs. Évidemment, au milieu, il y avait cette complication de la relation de puissance entre un auteur ou une autrice et un éditeur. Ça, c'est quelque chose qui revenait quand même aussi assez souvent. Mais le fait qu'on soit autrice augmentait, en fait, cette relation de déséquilibre relationnel entre l'éditeur et nous, quoi.
Comment ça a été accueilli par le milieu de la bande dessinée, la création de ce collectif?
Alors en fait, on a été mis en lumière surtout par la polémique qu'il y a eu pour l'édition 2016 du Festival d'Angoulême, où donc il y avait 30 auteurs qui étaient nommés pour le Grand Prix. Donc c'est un Grand Prix qui honore la carrière d'un auteur ou d'une autrice. Et en fait, dans ces 30 noms, il n'y avait aucun nom d'autrice. Donc ça nous a énormément choqués. Et on est monté un petit peu au créneau à ce moment-là. Et c'est Riyad Satouf, un de ces auteurs nommés, qui est monté aussi au créneau. Et c'est là, en fait, que les médias se sont emparés de l'affaire. Probablement aussi parce qu'ils sont souvent à la recherche de quelque chose à raconter pour le Festival d'Angoulême.
Tout ça, ça s'est fait 1 an, 2 ans avant la grande prise de conscience du problème systémique des violences sexistes et sexuelles qui a fait démarrer vraiment le mouvement MeToo, qui était donc en 2017. Comment ça se conjugue avec votre propre action, ce changement d'époque qu'on a pu percevoir?
Alors, on a fait la page Paytabule, qui est donc sur le site de bdegalité.org, après une de ces éditions, justement, où on a eu plein de remontées d'autrices qui ont dit, ben moi j'ai eu affaire à un tel comportement, moi il y a machin qui m'a fait ça, il y a machin qui m'a dit ça, etc. Très vite, de toute façon, quand on a échangé entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait tous ces choses qui n'allaient pas. Mmh. Et donc on a décidé de faire cette page Païtabule, et ça a été quand même un choc dans la bande dessinée.
Oui.
Beaucoup aussi pour les auteurs et pour les autrices, parce qu'elles se sont rendues compte déjà qu'elles n'étaient pas plus seules. Donc ça c'était important, qu'elles étaient plus seules à vivre ces trucs-là, qui des fois entravaient réellement leur carrière et leur comportement avec les autres. Et également, on s'est aperçu que le truc était un peu systémique. Donc en fait, on s'est encouragées les unes les autres. Certaines, qui étaient plus en position de puissance que les autres, n'ont pas anonymisé leur témoignage, mais les autres ont préféré laisser le leur anonyme.
L'une des constatations qui revient souvent après les grandes vagues de prise de conscience, les grandes tribunes de dénonciation de comportements qui ne sont plus jugés tolérables alors qu'ils étaient acceptés jusque-là, c'est que certes ces dénonciations interviennent, il y a du bruit médiatique autour, mais que derrière concrètement les choses parfois ont du mal à changer. C'en est où dans la BD aujourd'hui ?
Alors c'est très difficile. Je pense que la plupart de ces comportements ont pu changer. D'abord, il y a une prise de conscience de la part des auteurs, nos confrères, déjà, qui était importante, où on a commencé à leur dire, voilà, quand vous entendez telle phrase, il faut dire à la personne qui l'a dit que c'est pas normal de dire ça. Donc, je pense que chez les plus jeunes, c'est déjà beaucoup mieux, évidemment. Chez les plus anciens, parce qu'il y a quand même une génération de la bande dessinée dont la meilleure époque, c'était 80-90. Pour eux, c'est un peu plus dur, parce que c'est l'ancienne génération. Alors, se remettre en question, c'est très difficile. Mais quand même, je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Ceci dit, on est très loin d'en avoir fini avec tout ça, puisque là, par exemple, la dernière édition du Festival d'Angoulême, on a quand même eu des cas d'autrices, une autrice qui s'est fait mettre la main aux fesses par un autre... on ne sait pas qui, parce qu'elle n'a pas vu qui c'était. Et des propos déplacés aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas fini.
Et sur la question des rapports de domination entre éditeurs et auteurs ou autrices, est-ce que là, les choses ont avancé ? Parce que ce collectif, il s'inscrivait aussi dans le mouvement d'union des auteurs, autour notamment du SNAC BD, donc le syndicat dont toi, tu es vice-présidente maintenant. Il y a eu, à une époque, l'esquisse d'une unification des auteurs pour faire entendre leurs droits. Est-ce que ça a fait bouger aussi les choses ?
Ça, c'est difficile à dire. Là, par exemple, cette année, l'édition 2020, elle a été marquée par une mobilisation sans précédent des auteurs. Il y a eu ce débrayage qu'on a fait le vendredi. Il y a eu la tribune qu'on a fait dans Libé, qui a été signée par 1400 auteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme pour nous, le jeudi matin. Et le samedi, il y a eu cette cérémonie des fauves où Gwen de Bonneval et Fabien Wellman sont intervenus et ont fait monter d'autres auteurs et autrices sur scène pour une action qui a été pas mal remarquée dans les médias aussi. Mais toutes ces actions, les autrices y ont pris part autant que les auteurs, et ça, c'était très important. Donc, elles n'étaient pas absentes de ces actions-là. Et en l'occurrence, il y a un nouveau mouvement qui existe donc, depuis, et les autrices en font vraiment partie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Après, tu me posais la question pour si le mouvement avait changé les choses pour nous aussi. Je pense qu'elles sont plus prises en compte dans ce mouvement, d'ailleurs. Les autrices du collectif contre le sexisme sont vraiment actives dans ce mouvement. Et je pense qu'on ne peut pas faire sans elles à l'heure actuelle. Et elles font entendre leur voix, effectivement, sur... on essaie de monter plusieurs choses en ce moment. Et à chaque fois, les autrices interviennent sur plusieurs sujets. Et elles sont écoutées. Donc pour moi, là, il y a un changement, effectivement. Ouais.
C'est quoi les revendications des auteurs, notamment dans le cadre du festival? C'était quoi les mots d'ordre et les mots d'ordre de la mobilisation?
Justement, la fin de la précarisation, qui nous inquiète tous, qui est vraiment quelque chose qui est dans nos têtes régulièrement. On ne peut pas zapper ça. On va dire que les avances sur droit d'auteur, qu'on perçoit en général comme rémunération pour faire un livre, elles sont de moins en moins élevées, parce que les tirages sont de plus en plus réduits, en fait, les tirages de chaque livre. Il y a une surproduction de domaine du livre, et nous, on tenait aussi à alerter sur ça. On est aussi en train de subir une réforme qui est très compliquée de notre statut, qui nous inquiète beaucoup, parce que notamment, là, on devait passer à l'URSSAF. Apparemment, il y a la moitié des gens qui n'ont pas reçu leur code URSSAF. Enfin, là, c'est hyper compliqué à ce niveau-là, au niveau administratif. Donc, nous, on voudrait aussi une simplification de tout ce qui est administratif et un seul interlocuteur, parce qu'actuellement, on en a 10-20 pour un truc qui devrait être réuni chez un seul interlocuteur. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres revendications qui concernent les artistes-auteurs, la retraite, évidemment, puisqu'on est dans la concernés par la réforme. Et voilà, mais vraiment le problème premier, c'est le niveau de vie. Mmh. Et l'idée que, ben, on voit quand même une chaîne du livre qui vit bien, mmh. qui donne des super chiffres chaque année. Et nous, on est à l'origine de cette chaîne. On fait vivre plus d'une dizaine de personnes dans le milieu. Et franchement, on ne touche rien. Donc, c'est intolérable, en fait.
Il y avait une des revendications importantes, au-delà des comportements déplacés, ça a touché aussi à la rémunération. Le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, là aussi, dans un secteur qui paraît vivant, progressiste, en avance, comme la bande dessinée, on retrouve les inégalités salariales que l'on connaît et qu'on dénonce régulièrement dans le monde du travail, de manière générale. Où est-ce qu'on en est de ces questions-là aujourd'hui, ou d'où on partait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Bon, alors déjà, effectivement, la relation entre l'auteur ou l'autrice en général et l'éditeur, elle n'est pas équilibrée puisque c'est l'éditeur qui a l'argent. Ça, malheureusement, ça ne changera pas. Enfin, il faut qu'on le change, mais ce n'est pas seulement les femmes qui vont le changer. Sinon, on a pu remarquer quand même que dans les revenus, les autrices étaient beaucoup plus touchées par la précarisation que les auteurs. Alors, en quoi est-ce que c'est visible ? Alors, probablement parce que les autrices sont aussi plus jeunes aussi, et que donc, en général, les auteurs plus jeunes sont un peu plus précarisés que les auteurs. Mais pas seulement. On sait très bien aussi qu'une femme, elle n'est pas forcément formée à négocier. C'est un truc qui est probablement plus ancré chez les hommes que chez les femmes. Donc là, ça dépasse le stade de la bande dessinée, on est bien d'accord. Et c'est plus quelque chose que nous aussi, on doit déconstruire et qu'on doit changer. C'est quelque chose auquel le collectif peut participer parce que ça nous permet d'échanger et de nous encourager aussi les unes les autres sur ces points.
On a du mal à mesurer l'état de la précarisation du secteur de la bande dessinée. Quand on parle de ça, on parle de quoi concrètement ?
On parle de 36% en dessous du seuil de pauvreté. On parle, je crois, de 50% pour les autrices en dessous du seuil de pauvreté. On parle du fait qu'il y a plein de mères célibataires qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont précarisées en plus du fait d'être mères célibataires, etc. etc. quoi. Notamment, elles ne sont pas invitées en festival parce qu'elles ont un enfant, donc du coup, c'est compliqué. Et du coup, elles préfèrent renoncer au festival de bande dessinée ou à des interventions parce qu'elles ont la garde de leur enfant, quoi. Alors que chez les auteurs, en général, ça ne va pas se retrouver.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion de femmes autrices dans le monde de la bande dessinée ?
Normalement, il y a 3-4 ans, on disait qu'on était 30%. Là, à l'heure actuelle, je pense qu'on est un peu plus. On n'est pas encore à la moitié, mais je pense qu'on doit être entre 30 et 50%, mais probablement plus autour de 30-40. Ouais.
L'une des difficultés pour faire... porter ce discours de manière générale, c'est aussi, on le notait, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps avec la disparition de Claire Bretécher, l'absence ou le manque de figures importantes, ou de figures très mises en avant, d'autrices de bande dessinée. Alors là où il y a beaucoup d'auteurs extrêmement célèbres, connus bien au-delà des simples passionnés de bande dessinée, connus tout simplement du grand public. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on manque à ce point-là de figures, de modèles ?
Alors, il y en avait, mais elles se comptaient vraiment sur les doigts de la main. Ouais. Effectivement, Claire Bretécher, voilà. on a une discussion là-dessus. Donc, il y avait effectivement Claire Bretécher, Florence Sestac, Chantal Montelier, Annie Götzinger, qui est malheureusement décédée aussi récemment. Il y avait quelques autrices quand même, entre 5 et 10. Jeanne Puchol aussi, rare, trop rare évidemment. Mais qui étaient quand même des modèles auxquels nous, on s'est accrochés. Et notamment, Claire, c'était vraiment quelqu'un qui était un véritable modèle. Là, je pense à toute une génération d'autrices qui sont dans le style de la parodie, de l'humour, de la satire, etc., et de l'ironie. Et ça, c'est vraiment une figure qui va leur manquer, quoi. Qui les a marquées. Effectivement, la bande dessinée, c'était surtout un milieu d'hommes. Et les modèles... d'autrices nous ont énormément manqué. Après, on est aussi venu à la bande dessinée parce qu'on était lectrice. Et je pense que c'est aussi ça qui compte. Et ça s'est vraiment démocratisé au début des années 2000, quand la génération des blogs de bande dessinée est arrivée, dont a émergé une grande part des autrices d'aujourd'hui qui sont connues, dont Pénélope Bagieux, Lisa Mandel, Marion Montaigne, etc. Donc c'est elles maintenant qui sont des rôles modèles, et je pense que c'est très important de le signaler aussi. Ouais.
Est-ce qu'une des problématiques à résoudre, c'est aussi le manque de femmes dans le secteur de l'édition ? Est-ce qu'on a là une idée de la représentativité potentielle des femmes à des postes de décision qui pourraient là aussi faire évoluer les choses ?
Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question, puisque à l'heure actuelle, on a effectivement une nouvelle génération de femmes qui arrivent à la tête de grandes maisons d'édition. Donc, par exemple, chez Glénat, on a les deux filles de Jacques Glénat qui arrivent. Chez Casterman, on a Charlotte Gallimard qui vient d'arriver. Voilà. Donc là, on a une nouvelle génération de femmes. Il y a Christelle Hollands aussi dans une grande maison de médias participation. Voilà, il y a des choses qui changent. Et effectivement, derrière, il faut que ça change aussi au niveau des directeurs de collection, puisque c'est là aussi où ça se décide. Je pense que ça va changer, évidemment. Ça évolue, ça ne peut aller qu'en s'améliorant, de toute façon, j'espère. Mais là, effectivement, je pense que l'arrivée de ces femmes-là, j'espère vraiment, parce que vraiment, c'est difficile à dire, va faire évoluer les choses. Après, de toute façon, l'argent reste entre les mains des éditeurs. Donc, on peut aussi voir ça avec une certaine circonspection.
Mais ça, cet état de fait, comment le faire évoluer, le fait que l'argent reste entre les mains des éditeurs? Est-ce qu'il y a des idées qui sont sur la table?
Là, à l'heure actuelle, on attend les décisions ministérielles, d'après le rapport Racine qui a été rendu juste avant le Festival d'Angoulême. Voilà, on attend ça avec une certaine curiosité, on ne sait pas du tout ce qui va être annoncé ou décidé. On a fait des recommandations qui sont dans ce rapport. Certaines sont bien, certaines sont moins bien. Ça concerne tous les artistes-auteurs et pas seulement les auteurs et les autrices de bande dessinée. Donc ça, c'est hyper important de le dire aussi. Reste à savoir si, effectivement, ça améliorera le sort des auteurs. En tout cas, la précarité des autrices a été signalée dans ce rapport. Et ça, c'est important.
Est-ce qu'on peut préciser un peu ce que c'est ce rapport, le rapport Racine?
Le rapport Racine, c'est un rapport qui a été commandé à Bruno Racine par le ministre Franck Riester pour lui donner un peu un état des lieux de la situation des artistes-auteurs en général. Donc Bruno Racine a rencontré toutes les catégories, enfin j'espère qu'il a rencontré toutes les catégories parce qu'on a l'impression qu'il y en a quelques-unes qui manquent dans le rapport, des artistes-auteurs, donc ça peut être aussi bien des plasticiens que des auteurs de romans, du livre, etc., que des traducteurs ou des scénaristes, voilà. Donc c'est un panel très très large, tous les gens qui sont dans la catégorie artiste-auteur. Et d'après ce rapport, Riester doit faire des déclarations, donc on attend ça avec beaucoup d'impatience.
L'une des difficultés de ce secteur, typiquement pour se fédérer, c'est quelque chose qu'on a pointé du doigt dans la conversation, c'est l'isolement des auteurs qui sont des autrices qui, par essence, sont des indépendants qui travaillent seuls ou à deux éventuellement, mais beaucoup seuls. Est-ce que, de ce point de vue-là, au moins, la création des collectifs, de syndicats auxquels on a assisté ces dernières années, a fait bouger les choses? Parce qu'il y a plus d'union, plus d'unité dans le secteur.
On va dire que cette année, ce qu'on a réussi à faire à Angoulême, c'était assez exceptionnel. Donc, réunir toutes les tendances des auteurs. En fait, on a un véritable troupeau de chats. C'est-à-dire qu'on est chez nous, on est très indépendant, très individualiste. On ne communique pas beaucoup entre nous. Facebook, on va dire, c'est un peu notre machine à café, comme dans une entreprise. Voilà. Sinon, on se voit en festival et on est très difficile à mobiliser dans notre ensemble. Donc là, ce qui s'est passé à Angoulême cette année, pour l'édition 2020, c'était vraiment exceptionnel. Les syndicats, oui, à un moment donné, on est arrivé à faire bouger les choses. On va dire que c'est quand même beaucoup plus difficile maintenant, effectivement. D'ailleurs, il y a une nouvelle orga qui s'est créée, qui s'appelle la Ligue des auteurs professionnels, mais qui, elle, est plus sur un truc généraliste et pas seulement la bande dessinée. Et sinon, oui, effectivement, il y a mon syndicat, le syndicat national des auteurs-compositeurs, avec le groupement bande dessinée. Mais on a du mal à être efficace parce que d'abord, on est de moins en moins nombreux dans ces organismes, parce que ces organisations professionnelles, parce que justement, comme on est précarisé, on a de moins en moins de temps bénévole à consacrer à ça. Donc là, à l'heure actuelle, pour nous, c'est très compliqué. Je ne le cache pas.
Et sur ce dossier pressant de la précarisation des auteurs et autrices en général, au-delà du secteur de la BD, je vous renvoie à l'épisode que nous avions consacré au sujet en juillet 2019. On l'avait baptisé « Les artistes crèvent la dalle ». Merci à Christelle Pécou pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.